Bonjour à tous, Vendorage accueille à son micro aujourd'hui Laurence et Nicolas, actuellement à l'affiche d'un spectacle intitulé Fuck Américain à la Manufacture des Abbesses. Bonjour.
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 J'ai grand plaisir à vous recevoir à mon micro après avoir vu avant-hier soir ce merveilleux spectacle. Je dois dire que j'étais un petit peu dubitatif, enfin, pas dubitatif, mais en tout cas un peu effrayé par le titre. Ce que je me suis dit, est-ce que ça va être encore un brûlot contre les États-Unis? Et en fait, ça s'est révélé être bien autre chose, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à vous interviewer, parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire et la manière dont vous l'avez traitée sur scène.
Merci.
Alors pour commencer, si vous le voulez bien, j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu la genèse du projet. Comment vous avez déniché ce texte, parce que pour ma part, c'est un auteur que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé extrêmement fin. En plus, il y a différents, non pas de niveau de compréhension ni de lecture, mais différentes thématiques qui sont abordées à partir d'un sujet principal, qui est comment vivre finalement après l'épreuve de la Shoah, quand on est passé à travers les mailles du filet. Et on se rendra compte au travers de l'interview, mais j'essaierai de ne pas en révéler trop, qu'effectivement, la pièce parle aussi de bien d'autres choses. Alors, comment vous avez déniché cet auteur? Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui?
Alors déjà, l'auteur a été plus ou moins déniché par Laurent Mindon, qui est le metteur en scène, qui est un grand lecteur, et qui adore lire, et qui aime beaucoup d'ailleurs les textes allemands, puisque étant germophile. Et il a lu ce texte, Fuck America, et tout de suite, il en a vu quelque chose de scénique. Parce qu'effectivement, dans le texte de Fuck America, il y a énormément de scénettes, énormément de dialogues. Et il s'est dit, il y aura possibilité de faire quelque chose.
Et il faut préciser pour autant que ça n'avait pas été écrit pour le théâtre.
Non, 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 pas du tout. Alors je crois qu'il y a eu une adaptation quand même. De fait, on a su par la suite. En fait, une fois qu'à quatre personnes, ils ont commencé à faire l'adaptation. Parce que Laurent a demandé à trois autres comédiens, qui travaillaient souvent aussi dans le même groupe dans lequel on est, le Théâtre du Rectus, à travailler sur l'adaptation. Donc ils ont fait une adaptation à...
Quatre mains.
Six mains.
Six mains.
Huit mains, même.
Ça fait huit, non? Quatre fois
deux. Ça fait huit, hein, je crois. Hein.
Oui, oui.
Hein, tout augmente.
Ils ont fait ça à huit mains, parce qu'il avait envie aussi d'avoir une objectivité des autres, par rapport à ce que lui avait ressenti de sa première lecture, et le fait d'avoir travaillé avec trois autres personnes permettait aussi d'avoir différentes visions de ce texte.
C'était un travail de 6 mois.
À peu près. Ouais.
Et le texte était déjà disponible en français ou...
Oui. L'éditeur, c'est le Tripode, qui est d'ailleurs, j'invite les gens à découvrir cette édition, parce que c'est vraiment magnifique, c'est des bouquins magnifiques. Donc déjà, c'est attractif. Mais pour dire, en fait, Laurent, qui est mon compagnon, en ne cachant rien maintenant.
Je l'avais omis. j'avais pas dit exprès pour le chien.
C'était fait conseiller par un copain, le barbier et le nazi, de Dilsenrath. Je l'ai lu avant lui, parce que monsieur lit beaucoup, effectivement. Et ça a été, pour moi, une bombe. Comme depuis longtemps, j'en avais pas lu des bombes comme ça. Parce qu'il traite effectivement de la Shoah, des Juifs, etc. Mais comme c'est un Allemand juif, il traite ça avec beaucoup d'humour. Et on se retrouve piégé de rire de choses qui ne sont pas drôles.
Qui sont terribles, oui.
Qui sont terribles. Et ensuite, donc Laurent l'a tout de suite lu. Et ensuite, on s'est précipité sur Nuit, qui fait quand même écho à Fuck America, que je t'invite à lire aussi.
Qui fait écho à Nuit, parce que dans Fuck America, il parle du livre du branleur, en fait, qu'il va écrire.
Bon, je vous en prie. Plein de décors, vous inquiétez pas. Bon.
Et qui va, en fait, qui est dans le Fuck America, il parle d'un livre qu'il va écrire tout le temps, qui s'appelle Le branleur. Et par la suite, on s'est rendu compte que Le branleur, il l'a écrit, Inzelrath lui-même, sous le nom de Nuit. En fait, qui était vraiment sa vision, enfin, son histoire dans le ghetto, mais d'une manière romancée. Un peu ce qu'il explique dans Fuck America, où il décide d'écrire, mais il ne sait pas s'il va raconter une vérité ou s'il va rencontrer une fiction.
Il plane de doute d'ailleurs tout au long du texte, de savoir si c'est vraiment ce qu'ils ont vécu, ce que sa famille a vécu, ou si c'est quelque chose qu'il invente au bénéfice de ce travail de romancier pour le coup.
Exact. Il a vécu.
Alors, il a vécu alors, dans le Nuit, par exemple, ce qui va s'appeler Le Branleur, enfin, dans la pièce de Fuck America, qui est son livre après phare, vraiment un de ses chefs-d'œuvre. Hein. Mmh. Je conseille vraiment de lire Nuit, où là, il explique, mais en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, ce qu'il a vécu et ce qu'il aurait vécu. Mais a priori, par la suite de ce qu'on sait aussi de son écriture, parce qu'il continue à écrire, là, il en a écrit un, il y en a un qui est sorti il n'y a pas si longtemps, et dans ses écritures, maintenant, il commence à être un petit peu plus. Franc avec lui-même, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de réalité. Dans son dernier, il va vraiment expliquer ce qu'il a vécu, et ce qui n'est pas du tout ce qu'il a vécu dans Nuit. Mais en gros, c'est sa vision qui va romancer et qui fait qu'on se retrouve dans des situations, nous en tant que lecteurs, on ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'on parle de quelque chose de terrible qui est quand même le ghetto, qui est quand même de toute cette violence qui a été à l'intérieur, et ça, il le décrit, lui, d'une manière assez froide, mais il en écrit un roman. C'est-à-dire qu'on a un héros. Et le fait d'avoir un héros dans un ghetto, c'est terrible, parce que... Donc, il y a un côté qui est un peu troublant, mais même dans tout le personnage d'Inzelrad, de cet auteur-là, que ce soit Fuck America, ou Nuit, ou même le nazi et le barbier, ou même tous les autres livres qu'il a pu faire, il nous met toujours un petit peu en situation de... on n'est pas dans quelque chose de malsain, on est dans quelque chose où on aimerait en rire, on aimerait imaginer tout ça d'une manière fictionnelle alors que tout est réalité.
Oui, c'est peut-être un travail de mise en abîme qui a peut-être des explications d'ordre purement psychologique, peut-être qu'il y a besoin de mettre à distance un certain nombre de choses, et l'humour aussi peut être une manière... à la fois de mettre le spectateur dans l'inconfort d'ailleurs, mais aussi peut-être de pouvoir en parler pour le coup sans tomber dans le pathos et sans raviver complètement les blessures du passé. Alors vous avez effectivement un peu anticipé sur la suite de mes questions. C'est un texte donc qui ne manque pas d'humour, un humour assez corrosif, assez caustique. Vous avez été donc séduit par cette particularité de l'écriture d'Isolrat.
Oui, alors je l'ai lu bien après, puisque une fois que Laurent a convoqué ses acteurs, entre guillemets, qui est quand même une équipe qui se connaissent depuis pas mal de temps, on a fait pas mal de spectacles ensemble, et on a l'habitude de travailler avec un auteur, enfin, ça faisait 5 ans qu'on travaillait régulièrement avec un auteur, Sylvain Levet, on va jouer d'ailleurs une pièce de lui, là, au même endroit, à la manufacture.
À 19h, du mercredi au samedi.
Et donc, il a conservé un peu cette même équipe de comédiens. Donc, on commence à se connaître pas mal. Et puis, donc, une fois qu'il nous a passé le texte en nous disant, il va falloir... Je vous en prie. Il nous a dit, au moment où on va écrire, il va mettre en scène ce texte, on l'a tous lu. Et moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, comment il va pouvoir monter ça? Parce que dans le texte, alors l'adaptation est assez bien faite, mais dans le texte, c'est vrai que c'est très cru. Moi, tout de suite, dès que j'ai lu le texte, j'ai dit, ah, c'est incroyable, mais c'est une espèce de violence crue, basique. Il met pas de forme. Quand il dit une bite, il dit une bite. Quand il dit sexe, il dit sexe. Quand il dit enculé, il dit enculé. Et quelque chose qui est très brut, comme ça. Et moi, quand je l'ai lu la première fois, alors c'était la première lecture, après on l'a relu différemment avec une deuxième lecture dans l'imaginaire de le monter.
Quoi. L'humour n'a pas forcément fait surface tout de suite.
Pas tout de suite, non. Non, j'ai vu quelque chose de brut, de dur, et me dire, mais en fait, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à bouffer, il baise, il ment, il triche, il vole, il baise, il ment, il parle à sa bite. Il n'y a que ça, en fait. Et étant que c'est très assuré, c'est un espèce de livre qui se lit assez vite, d'ailleurs, mais qui est très assuré. Donc, il ne met pas le temps à une explication, à une... Je sais pas...
Il ne met pas les formes, il
va droit au but. Et puis, c'est à la fin du livre, où tout d'un coup, on se rend compte que oui, mais là, il le fait parce que il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Et donc, il est obligé de s'inventer quelque chose. Et la seule chose qu'il fait vivre, finalement, c'est tout ce qui est réel. Et tout ce qui est réel, bah, c'est le cul pour lui. Enfin, c'est le basique, c'est de manger, c'est de vivre. Une fois qu'il a vécu le ghetto, il ne peut finalement... Et tant qu'il n'a plus rien en tête, il a vécu l'horreur absolue, il ne peut se rendre compte que d'une chose, c'est qu'il vit parce qu'il bande, en fait. Il vit parce qu'il a des pulsions. Et une fois qu'il a des pulsions, il dit « je vis ». Et alors, je l'ai compris après dans la lecture. Mais au début, je me suis dit que ça va être très dur à monter.
C'est intéressant d'ailleurs, parce que je trouve le texte amène à cette réflexion sur l'existence et le fonctionnement du corps au travers de ses instincts les plus premiers, la nourriture, les relations sexuelles. Et le réveil du corps permettra aussi un réveil de l'âme qu'il semble avoir perdu ou laissé un peu au ghetto et dans cette période affreuse. Donc c'est quelque chose aussi qui est assez, assez fascinant à découvrir dans un texte, au travers d'un texte qui a l'air de pas trop y toucher et qui pour autant est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait penser.
Mais quand tu parles d'humour, l'humour qu'on ne trouve pas dans le roman, moi je trouve, hein, parce que comme tu viens de le dire Nicolas, mais c'est un petit peu nous aussi qui les avons créés.
Qui l'avait insufflé.
Insufflé, parce qu'il y a par exemple la scène de la pute, si tu la lis comme ça...
Elle est crue et violente et elle n'est pas forcément drôle.
Il n'y a pas d'enjeu non plus. Mmh. Il veut juste baiser, elle veut juste de l'argent. Point barre. On en a fait quelque chose de différent.
Sauf que dans le livre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'une scène de la pute. Il y en a plusieurs.
Ouais.
Oui, parce qu'il retourne à la charge.
Et il y retourne. Et c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois. Donc c'est ça qui fait que... Il montre quand même d'un destin qui est quand même assez tragique et assez terrible. Et il va aller voir les bas-fonds les plus totales pour essayer d'avoir cette pipe à que dalle. Quoi. Mmh. Mais alors, sur une scène présentée ça, mais dans le bouquin... C'est régulier. Donc nous, la première adaptation qui a été faite, puisqu'on a eu beaucoup d'adaptations en fait, la première adaptation, on était un peu trop là-dedans. Mmh. C'est-à-dire qu'on était un peu trop, je rentre chez moi, j'essaie de bouffer, je sors, je baise. Je rentre chez moi, j'essaie de bouffer, je rentre, je baise.
Une et espèce de mécanique. Oui, et là, il y a eu un théâtre d'ailleurs qui faisait ça dans les années 70-80 et que moi, je mets pas outre mesure. Oui, mais je suis plus vieux qu'on ne peut l'imaginer. Et je trouve que ça, c'est bien. Il n'y a pas de phénomène de répétition. Parce qu'on se doute que le bouquin est plus, voilà, insiste plus au travers de répétition sur certains aspects. Là, c'est par des petites touches presque pointillistes que le portrait, finalement, de ce personnage se dresse.
Voilà.
Comment vous avez bossé ? Parce que vous êtes donc une troupe, une équipe qui a l'habitude de bosser ensemble. Quand vous faites une créa comme celle-là, vous avez souligné qu'il y avait la présence d'un metteur en scène dont c'est vraiment le rôle, mais vous bossez plutôt au plateau, vous bossez individuellement avec le metteur en scène, tous ensemble, comment ça se passe ?
Là, on a bossé sur plusieurs phases. Mm-hmm. La compagnie... commence à bosser de plus en plus comme ça, aussi pour les raisons, je dois le dire, en province. C'était des sessions de 15 jours, à peu près, tous les 3 mois. Voilà. Et le temps aussi, c'était bien que l'écriture, qu'on teste des choses sur le plateau, et qu'après ce soit retravaillé pour les adaptateurs. On a commencé à la table, c'est vrai. Et puis après, il n'y a pas à chier, il faut aller.
Faut y aller.
Ouais, parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que les scènes qui sont écrites, d'abord, ne sont pas construites pour du théâtre. Mm-hmm. C'est avant tout un roman. Il y a des romans où tu sens tout de suite qu'il y a une théâtralité. Là, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et donc, il fallait...
Il fallait la construire, en tout cas, cette théâtralité.
Il fallait la construire, il fallait créer des personnages sans en même temps pas trop mettre un trait de stabilo, tu vois, mm-hmm. dans la composition, dans la performance.
Oui, parce que la chose que tu dis pas, enfin, que les gens verront s'ils viennent voir le spectacle, et j'espère qu'ils vont venir.
Hein. Ils vont venir.
Ils vont venir. C'est que dans les personnages... moi, je vais faire le personnage de Bronski qu'on va suivre tout le long, mais en dehors, les quatre autres personnes, enfin les trois autres personnes.
On incarne plusieurs.
On incarne plusieurs. Il y en a trois autres qu'on incarne plein sans arrêt. Donc il y a une espèce de parcours. Il parcourt un nombre de personnages qui est assez hallucinant. C'est vrai que c'est aussi le talent de ces comédiens de pouvoir en faire plusieurs sans forcément mettre trop non plus de. Des trop caricatural sur un personnage. C'est un travail qui mérite d'être souligné.
On ne voulait pas trop de perruques, on ne voulait pas trop de transformations physiques, on ne voulait pas... on ne voulait pas que ça fasse performance pour ne pas être trop important par rapport au personnage de Nicolas Bronski, parce que c'est lui qu'on suit. Voilà.
C'est marrant que vous souligniez ça, parce que sans vouloir dire du mal d'une autre production, j'ai vu Vera avant les vacances avec Karine Viard. J'ai trouvé Karine bien évidemment somptueuse comme elle l'est toujours. La pièce m'a pas renversé, pour être très franc. Et justement, il y a cette approche qui est souvent, comme vous le soulignez, économique, hein, une contrainte économique aussi de ne pas vouloir. Pouvoir multiplier le nombre de comédiens sur scène, mais qui est aussi un exercice au théâtre auquel les comédiens se prêtent volontiers. Et pour bien montrer les changements de caractère, de personnages, il y avait, je trouve, pléthore d'artifices, de perruques, de mimiques, et je trouvais ça un peu gratuit, et ça sortait complètement, finalement, du propos, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié là. Ça se fait par quelques petites touches, et ça suffit amplement.
On n'aime pas...
Oui, et puis effectivement, même dans le spectacle, même de ce que a voulu faire Laurent, une partie, ou de ce qu'on a cherché ensemble à essayer de réaliser aussi, c'est que c'était pas forcément une pléthore de personnages caricaturaux qui allaient rentrer. C'était un peu dans l'imagination de Bronski, donc du personnage principal. Donc c'est comme s'il était dans sa chambre et tout d'un coup les personnages arrivaient. Est-ce que c'est des fantômes du passé? Est-ce que c'est des gens qu'il avait?
Exactement. Est-ce qu'on est dans la phase d'écriture? Est-ce qu'on on est dans sa vraie vie?
Voilà. C'est ça et qui donc, est intéressant. C'est pas forcément. Donc ça peut être les mêmes qui viennent mais qui repassent des questions, qui passent par d'autres. De toute façon, il ne sort pas lui. En fait, il est omnibulé par un mensonge perpétuel de ce qu'est sa vie, puisqu'il s'invente une vie, puisqu'il veut l'oublier, celle qu'il a vécue. Donc même dans l'écriture du texte de Isolrad, de Folk America, on ne sait pas si c'est vrai ce qu'il raconte. Mm-hmm. Et à tous les livres d'Isolrad, on dit, mais où est la vérité là-dedans?
C'est vrai.
Il y en a beaucoup, mais on ne sait pas où elle est.
Alors, je ne sais pas si c'est l'écriture elle-même, il faudrait que je me penche sur le roman. Est-ce que c'est ce que vous en avez fait au plateau? Est-ce que c'est les thématiques qui sont abordées, les petits boulots à New York, etc., qui m'ont fait penser à ça? Mais ça m'a un petit peu projeté dans l'univers de Steinbeck. Je trouve qu'il y a des échos avec Steinbeck. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez évoqué entre vous. Vous pourrez en tout cas y réfléchir. Et la rudesse aussi des relations m'a fait penser à Steinbeck, qui est une écriture assez masculine. Mm-hmm. Et justement, on va venir à quelque chose qui m'a invité à vous convier tous les deux à cette interview. C'est que ce personnage est enfermé dans sa masculinité, dans des rapports assez âpres avec tous les messieurs qu'il rencontre, qui ne sont pas toujours très tendres avec lui d'ailleurs. Et puis, il y a un personnage, en tout cas des personnages féminins qui viennent un peu éclairer, pas toujours dans des relations non plus simples ou lisses, mais qui apportent parfois un peu d'espoir, des espoirs pas toujours satisfaits d'ailleurs. Je pense notamment à cette pièce de séduction ratée entre l'une des protagonistes et Bronski. C'est quelque chose dont vous aviez aussi conscience, parce qu'il y a essentiellement des acteurs masculins sur scène. L'histoire a été écrite par un homme, elle est mise en scène par un homme, dans des relations donc un peu viriles. Et ces personnages comme ça, féminins, qui viennent butiner certaines pièces, comment ça s'est construit? Vous aviez vraiment envie justement que le personnage féminin soit une espèce de lueur d'espoir dans ce propos très sombre?
C'est écrit, il y en avait pour revenir au roman en deux secondes, il y a plus de personnages féminins, voilà, mais c'est toujours pour les baisers.
Il est sauvé. En fait, les personnages féminins qui arrivent, c'est les seuls qui arrivent à sauver Bronski.
Oui, mais lui, c'est pour les baisers.
Oui, mais enfin, finalement...
Même la psy?
Mais non. Oui, la psy,
c'est... Il a fait l'amour avec elle, dans sa tête.
Oui, mais c'est elle qui l'a eu, finalement, parce qu'elle a réussi à lui faire dire tout ce qu'il...
Elle le fait accoucher, quand même, de certaines choses.
Elle le fait accoucher, bien entendu.
Et heureusement que les femmes sont là, dans l'univers de Bronski, autrement, elle n'arriverait pas à vivre.
Je vais donner mes rôles, hein. La pute.
La secrétaire.
La secrétaire de direction.
La secrétaire qui se fait enculer. La secrétaire bourgeoise. Et puis la patronne d'un restaurant et Marie Stone.
Qui n'est pas très sympa d'ailleurs.
Oui, mais écoutez.
Mais qui fait tourner sa boutique en même temps.
La vie est dure aussi, hein. Dans les années 50 à New York.
Et surtout quand ils sont en face de Bronski, qui n'est pas forcément le plus grand serveur de ces dernières années. Hein.
Donc moi, ce qui m'a amusé, c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me dis, bon, les rôles de femmes, ils sont petits, mais au moins l'exercice va être rigolo, c'est de passer d'un à l'autre, et puis d'être aussi la seule nana dans la compagnie, là, pour le coup. Non, c'est un pur plaisir.
Ça ponctue magnifiquement le rythme de la pièce, je trouve. Ouais. Les apparitions féminines, ça fait un bien fou.
Oui.
Pour terminer cette interview, j'aimerais qu'on aborde peut-être ce qui est la thématique la plus importante dans ce texte, au-delà du fait que ça parle du vivre après la Shoah et de trouver sa place dans une communauté qui n'est pas la sienne, dans un pays qui n'est pas le sien. c'est ce besoin irrépressible d'écrire. Parce que c'est aussi de ça que parle le roman. Bronski est enfermé dans une espèce de marotte, de fantasme absolu. Il faut que ça sorte. Au-delà même de ce qu'il a pu vivre, on sent que c'est un auteur. Alors c'est assez surprenant parce que c'est pas du tout comme ça qu'il est perçu par les gens qu'il croise. On le prend un peu pour un branleur, il le dit lui-même.
Ou un clodo.
On lui souffle même le titre de son bouquin qui lui irait tellement bien. ça c'est quelque chose qui jaillit très vite au travers de quelques artifices aussi sur scène qu'on ne va pas dévoiler, mais on sent que c'est un vrai écrivain. C'est ça qui vous a séduit aussi dans le rôle ?
Oui, complètement. Ouais. Oui, alors après, ce qui est assez beau, c'est que c'est ces personnages un peu ces anti-héros, ces personnages un peu complexes qui ont une faille. Et lui, il a une faille énorme. De toute façon, même... Alors après, je me suis beaucoup intéressé pour faire ce rôle-là, un peu aussi à Ezelrad, quelque part. Parce que il explique quand même lui-même, dans des petites interviews qu'il a pu faire, que c'est le sexe qui l'a sauvé, qu'il n'a jamais voulu écrire, mais qu'il a été obligé d'écrire, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas passer, et qu'il était muet aussi. C'est-à-dire qu'il est quand même devenu muet, parce que je crois qu'il était ado quand il est sorti du camp, enfin, du ghetto, et en fait, il ne parlait plus. Et donc, il avait des failles énormes. Et c'est, tout d'un coup, il s'est mis à écrire, mais pas dans... Et tout d'un coup, il s'est dit, mais je vais être écrivain, mais comme une espèce de... Comme s'il avait découvert que c'était l'écriture
qui allait sauver,
une révélation. Mais en se disant, je vais écrire des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé en disant, je vais écrire des petits poèmes. Non, non, je vais écrire des chefs-d'œuvre, je vais écrire un roman sur ma vie. Donc un roman, et en parlant de son roman, il a écrit la vérité, enfin, quelque part, quoi. Mais donc c'est cette faille de personnages qui est hyper touchant et qu'on a envie de travailler, qui sont pas faciles à amener non plus parce que en fait on est un peu obligé d'être complètement dans le personnage pour retranscrire au spectateur cette espèce de détresse. Alors des fois par exemple ça m'arrive des fois d'être moi-même troublé et d'avoir du mal en fait à aller jusqu'au bout de quelque chose. Par exemple sur ces scènes de fin où il se dévoile, c'est pas quelque chose que j'ai décidé, c'est pas quelque chose que je enfin c'est quelque chose que je travaille intérieurement, mais c'est surtout quelque chose que je veux pas trop contrôler non plus. Y a une espèce d'émotion qui surgit comme ça, c'est comme si le personnage il m'avait traversé et que je suis en train de vivre ce qu'il a vécu. Et donc ce qui fait que j'aime bien être sur ce fil. Alors en même temps, moi, j'aime bien travailler aussi là-dessus, toujours sur un fil.
Une mise en danger permanente.
J'ai une espèce de mise en danger que j'aime bien, parce que d'un coup je me dis, est-ce que c'est moi qui me casse ? Est-ce que c'est le personnage qui me casse à l'intérieur ? J'aime bien en fait m'effriter un peu comme, comme une bouteille en plastique qui craquerait à l'intérieur de moi, et puis qui des fois gonfle, mais j'aime bien qu'elle craque. Voilà, donc c'est sur ces choses-là que j'aime bien travailler, et puis ce texte m'a beaucoup plu, en même temps il m'a ému. Donc, après il a fallu justement faire tout le travail de chasser cette émotion pour essayer de que le personnage existe. Voilà, ça a été mon travail sur ce rôle, de chasser l'émotion, en fait, évidemment.
Ce qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas forcément...
Non, mais trop d'émotions tue l'émotion. Enfin, il faut aussi quand même dire qu'on est au théâtre et qu'il faut, que les gens entendent quelque chose. Enfin, c'est pas un pleurnichard, en plus, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Et qui n'a aucun moment...
Non, mais c'est sans doute un exercice qui est assez compliqué dans une pièce comme celle-là, c'est qu'effectivement, il y a deux approches. Il y a le personnage principal et ce qu'il a vécu en tant que personne. Et puis, il y a ce propos sous-jacent, cette trame de fond qui est très lourde. Et on ne veut sacrifier ni l'un ni l'autre. Et je pense que c'est un peu ce qu'a vécu aussi, tout à l'heure, je citais... Steinbeck, Romain Gary dans La promesse de l'aube, qu'il a mis très longtemps à pouvoir écrire, qui est son bouquin autobiographique, où il y a un peu ce tirenchement aussi entre les choses très difficiles qu'il a traversées au niveau historique, comme tout un chacun, et puis surtout le rapport qu'il avait à ces événements, qui étaient très particuliers, parce qu'il était très, très impliqué au plan politique, et puis ce qu'il a vécu en tant qu'individu, personne. Alors, donnez-nous maintenant, la question stupide vient toujours à la fin de mes interviews, donnez envie aux spectateurs de venir vous voir. C'est la chose la plus difficile. Tous les comédiens détestent cette question et je vois vos mines acquiescer.
On se croirait à Avignon quand on,
c'est ça.
Quand non, on mais... crée le spectacle à Avignon il y a un an pour distribuer les tracts. Moi, c'est un exercice que je déteste.
Qu'est-ce que tu disais?
Et je disais rien.
Non, moi je dirais qu'il faut venir voir ce spectacle déjà pour découvrir un auteur qui est malheureusement pas très connu.
Non, alors moi, je ne le connaissais pas.
Il a écrit des chefs-d'œuvre et c'est quand même un truc incroyable qu'il ne soit pas aussi connu alors qu'il ait fait ces livres-là d'une puissance incroyable. Aussi pour, je dirais, le travail scénique, la mise en scène, le travail collectif, et de voir des comédiens sur un plateau qui s'entendent, qui travaillent ensemble depuis longtemps, et qui donnent cette espèce d'unité, est aussi hyper agréable, je pense, en tant que spectateur à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... il y a une espèce de...
Avec une vraie économie scénographique. Hein. Ouais. Tout est axé vraiment sur le jeu, sur le
travail. Et je trouve que c'est hyper agréable. C'est un spectacle qui finalement parle de choses terribles. Et en même temps, comme le fait Inselrat, l'auteur, avec cet humour, qui fait que on pourrait être ému et en même temps, on sourit. Et en même temps, il y a de la vie. Quoi. Donc ça, c'est plutôt... Donc voilà, mais ce serait pour tout ça qu'il faudrait venir voir ce spectacle.
Eh bien, je crois qu'on a convaincu nos auditeurs et
tu
lecteurs. Et Laurence est convaincu, donc tout va bien.
Convaincu de venir.
Je vais y aller.
Viens donc.
Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré.
Merci
et puis, bon vent à ce spectacle qui mérite vraiment le déplacement à la Manufacture des Abbesses actuellement. Au revoir à tous.
Merci, au revoir.